j'ai un beau-père qui a levé la main une fois, il a giflé ma mère et j'ai essayé de le planter. Elle lui a dit suite à ça que mon fils va te tuer.
Je suis tellement vrai que j'ai l'air faux. Je n'ai jamais oublié l'époque de mon bendo.
Yes, salut, c'est Kalash pour Melty. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques-unes de mes paroles dans Lyrics. Yeah.
Mada, je suis un négro de Mada, là où les balles pleuvent comme les mamas. Et tous les jours, je ride for my nigga, die for my nigga. Ben dans Mada, c'est simple, je décris un certain quotidien d'une certaine partie de la population, c'est-à-dire les gens qu'on veut mettre en marge, les gens des quartiers difficiles. C'est qu'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de fusillades. Il y a des périodes où en un mois, tu peux avoir deux morts, trois morts, ça dépend, tu vois. Je faisais et je fais toujours partie de la population que je décris, puisque certes, j'ai plus les mêmes problèmes quotidien, ni même carrément d'argent. Mais quand je rentre au pays, ça, je me retrouve avec les mêmes personnes, souvent dans les mêmes endroits, mais mon entourage est resté le même, quoi. Donc je suis toujours relié à cette réalité-là. Bon, il y en a qui ont, il y a beaucoup qui ont grandi, qui ont trouvé du job ou ouvert un business. Mais il y en a aussi qui sont restés dans la même situation, qui habitent dans les mêmes conditions, dans certains ghettos, dans certaines cités, qui, je pense, auraient préféré vivre ailleurs, quoi. Mais en tout cas, je suis resté toujours la même famille, quoi. La violence, elle n'était pas autour, on était dedans, c'est-à-dire on a enterré des potes. Jusqu'à aujourd'hui, on enterre des potes. Quand je dis père, c'est-à-dire on a des potes qui partent pour des 15 ans de prison, des 16 ans. Donc c'est pas autour, on est dedans, on est concerné, on reçoit des appels, ouais, tel gars s'est mangé une balle, tel, c'est, ça continue, quoi. C'est pas du tout des trucs que j'apprenais à la télé, c'est je connais les mecs. On pleure certaines personnes, on soutient leur maman, donc c'est vraiment dedans, quoi. C'est pas comme si je suis Jennifer Lopez et j'ai quitté le Bronx, par exemple. Tu vois, c'est vraiment une communauté, soit tu lâches, soit t'es dedans, moi je suis dedans à fond. Mais dans un autre mode de vie, tu vas pas me voir aller voler, faire un braco, ou bien... tu vas pas me voir dans une fusillade, on sait pas de quoi demain est fait. J'essaie de m'en tenir loin, quoi. Deuxième son, c'est moi Castori. Passer de ménage en ménage, on aménage, on déménage. Beau papa à la main légère, moins d'occasion, je nique sa mère. J'ai grandi à Cité Dillon, je sais plus jusqu'à quel âge, peut-être 10 ans. Et du jour où on a déménagé de Dillon, j'ai dû déménager 15 fois après. Mes parents se sont séparés, mon père a eu plusieurs femmes, ma mère a eu deux hommes. J'ai un beau-père qui a levé la main une fois, j'ai essayé de le poignarder, donc ma mère l'a quitté. Il a giflé ma mère et j'ai essayé de le planter. Elle lui a dit suite à ça que mon fils va te tuer. Ça s'est fini comme ça, du jour au lendemain, séparé. Donc, tu sais, ça se trimbalait d'une période. Je suis chez maman, je suis chez papa. Je sais pas, des fois, le soir, ma mère mettait dans sa voiture à minuit, parce qu'il y avait eu un problème à la maison, mais pour moi, c'était une occasion de ne pas dormir et peut-être de pas aller à l'école le lendemain, tu vois. Parce qu'elle s'était embrouillée avec mon beau-père, par exemple, et elle me dit, vas-y, monte dans la voiture, prends un oreiller. Et je me dis, putain, génial. Et en vrai, c'est des trucs qui te donnent des mauvaises bases, quoi. Je pense, c'est-à-dire, je voudrais pas aimer que mes enfants vivent ça aujourd'hui. Je me suis fait trimballer d'appart en appart, c'est-à-dire, t'as pas de base, t'es là. Et après, ça s'avérait vrai, mais j'ai passé après ma vie à déménager, enfin, à habiter chez un pote, à dormir chez telle meuf, chez tel gars, sous un abri. Tu deviens une espèce de loup, quoi, tout seul. Et je pense que voilà, c'est pas une sécurité, ça. Le son d'après, c'est Mama. C'est en créole à la base. Ça veut dire, tu m'as déjà tellement pardonné, tu m'as pas lâché même quand j'ai quitté la maison, tu connais pas mon mode de vie, mais tu éclaires mon chemin. J'ai écrit ce morceau à plus de 10 ans. Donc c'est pas la même situation, c'est-à-dire il y a des choses qui ont changé. Je dis tu m'as pas lâché même quand j'ai quitté la maison. Mais c'est bizarre de dire ça parce que c'est elle qui m'a mis dehors. Donc en fait on venait de se réconcilier quand j'ai fait ça. Donc j'étais gentil de ouf. Mais en fait quand la première fois que la police m'a arrêté, ils ont appelé ma mère. Mais ma mère elle a un côté très fier. C'est-à-dire j'étais mineur donc ils sont obligés de l'appeler. Et j'étais assis devant l'OPJ et il a mis le haut-parleur. Il dit ouais votre fils. Et elle a répondu alors. Il a dit ouais mais faut venir le chercher pour qu'il sorte. Elle a dit bah, gardez-le, tu vois. Mais elle s'est mise en clash avec lui, genre, c'est lui qui a fait quelque chose de mal. Tu vois ce que je veux dire, genre, vous avez pris mon fils, mais assumez que vous l'avez pris. Moi, je dis, putain, il va jamais venir, je sais pas, je vais pas sortir d'ici, tu vois. En fait, on m'a attrapé devant l'école, en train de dealer. Ils ont dû appeler les deux parents. Finalement, c'est mon père qui est venu. Il m'a amené manger au chinois, je me rappelle. Il m'a dit, ouais, amène la meuf que tu veux. Donc, j'ai amené une copine de l'époque. Et sur l'addition, il m'a écrit à ta première. Et déjà, à l'époque, quand il avait écrit ça, je m'étais dit, putain, mais ça, c'est un mauvais œil, ça. À ta première, ça veut dire qu'il y en aura d'autres, tu vois. Jusqu'à maintenant, il s'en rappelle de ça. Et il m'a dit, ouais, je vais te chercher parce que ta daronne là, elle veut plus te voir, tout ça. Il m'a accompagné chez elle, que c'est là que j'habitais à cette époque-là. Et j'avais déjà un peu de tresse, tout ça, les longs cheveux. Et elle m'a pas regardé, elle m'a dit, tiens des ciseaux et coupe tes cheveux ou quitte. J'ai dit, mais moi, jamais je coupe mes cheveux. Donc il fait, ciao, ciao.
Et c'est comme ça que j'ai quitté chez moi. Et j'ai atterri chez une meuf qui habite au campus. Donc c'était frais ça. T'habites au campus, t'as que des grands, que des grandes meufs. Donc j'ai arrêté d'aller à l'école, parce que je suis dit au campus, je vais plus aller au collège, au lycée. Mais malgré ça, tu sais, ma mère, elle m'a jamais rien dit. Et c'est un jour, des mois après, mon beau-père, qui est encore mon beau-père actuel, que j'adore, là, je l'adore de ouf. Il m'a appelé, il s'était jamais permis de m'appeler dans aucun moment de ma vie pour me donner des leçons. Il m'a dit, là, excuse-moi, mais je vais te dire un truc, ta mère, elle pleure tout le temps, ça me saoule, machin, elle t'écrit des lettres qu'elle t'envoie pas, tout ça. Donc moi, j'ai commencé à refaire le pas vers elle, même si je revenais pas, mais on s'appelait, tout ça, on s'appelait un peu. Elle a recommencé à me donner des coups de main, à me filer des 100 euros, à mettre des courses chez la meuf chez qui j'étais, tu vois. Et elle nous a acheté une télé. Ah, c'était bon, ça. C'est pour ça que je dis, tu connais pas mon mode de vie, mais tu éclaires mon chemin. C'est-à-dire par exemple, quand c'était Noël, je mets tous les potes de la cité, on allait voir toutes les mères, donc on allait voir ma mère, et tu sais, tout le monde fumait, tout ça. Et je lui dis, ouais, lui, c'est tel gars, il vient de sortir de prison, tout ça. Il me dit, Kevin, comment c'est sort de prison Et lui, machin. Et puis, mais elle les adore. Hein. Elle dit, vous êtes des voyous, tout ça, vous êtes des vacabonds. Ils disent, mais si, on est des gros voyous. Donc c'est un peu pour embêté. Et c'est comme ça qu'on s'est remis bien. C'est-à-dire avec toute cette ambiance où elle se disait, voilà la vie de mon fils, quoi. Et puis c'est des gars qui le protègent, enfin, ils se protègent entre eux, tu vois. Donc, je sais pas, ça installe un truc marrant entre ma mère et moi de voir un peu mon mode de vie, quoi. Et après, je l'admets dans des endroits, dans des cités, dans des shows. Et j'ai fait mon anniversaire, je l'ai invité, il y avait des mecs armés, tu vois. Elle est, je lui dis, regarde son dos, il a un flingue dans le dos, tout ça. Elle va le voir, elle lui dit, t'as un flingue dans le dos, laisse-moi voir, tout ça. Des fois, les gens la croisaient, ils lui disaient, ouais. Ton fils, il était dans telle histoire, ou il s'est battu en bois, tout ça. Et à chaque fois, elle dit la même chose. Et alors, il n'est pas mort. Enfin, donc, elle avait un peu ce répondant là aux gens qu'elle a jusqu'à maintenant, elle a du répondant comme ça. Alors, moi, Kamoun, dans le vide, je respire à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait le dos, moi, en photo dans l'appareil. À cette époque-là, j'ai fait cet album et ce morceau. J'étais malade, j'étais sous cacheton. Je faisais des crises violentes d'angoisse, de panique, etc. Donc c'est pour ça que je dis dans le vide, je respire à peine, parce que j'écris le morceau et j'écris même pas ce morceau, mais j'écris l'album complètement fatigué, sombre, hagard, dépendant aux Xanax. Selon les psys, ça vient de tout ce que je t'ai raconté avant. Des parents. C'est moi, ça a toujours été pour moi un cliché quand ils disent, ouais, ça vient de votre enfance, ça. Ils disent, vas-y, on paye des gens pour qu'ils nous disent la même chose, machin. Mais en fait, ils m'ont tous dit la même chose. C'est-à-dire, quand on a parlé une heure, ils me disent, mais c'est pas possible de survivre à ça sans parler et tout ça. Donc, ouais, ils me disent que c'est l'enfance, avoir été ballotté de gauche à droite, d'avoir vécu de maison en maison, de ne pas avoir eu de stabilité, quoi. Et puis le rapport avec les parents, le rapport avec les femmes, les psys disent que ça vient de là. Voilà. C'est arrivé d'un coup, c'est arrivé un soir comme ça, j'étais à Los Angeles, c'est arrivé, première crise, boum, je pensais que c'était un arrêt cardiaque. J'ai été à l'hôpital, ils m'ont dit non, faut juste boire de l'eau. Et après, ça revenait tellement, ça arrivait des fois sur scène, sur des gros concerts, Olympia, Zénith, donc j'étais obligé de consulter et qu'on me dise non, t'as rien, c'est juste que c'est mental et ça se soigne, faut consulter. Il n'y avait rien de physique, donc déjà que ça rassure un peu. Je me dis ouais, il n'y a rien, j'ai fait les plus grands tests. Et puis quand t'as quelqu'un qui t'accompagne et qui t'aide à te relever après chaque crise et qui te calme un peu, ça aide, ouais, au-delà des cachetons. Ouais. Mais l'album Moi Kamoun, moi je le fais entièrement sans alcool, sans pouvoir fumer, en total comprimé. Quand tu penses que c'est la solution, l'addiction est difficile à maîtriser parce que ça devient un peu un refuge, quoi. C'est-à-dire tu vas prendre 1, 2, 3, 4, 5 et après ça fait plus d'effet. Maintenant, c'est 1, 2, ça s'arrête là. Mais ouais, c'est quelque chose qui rend vraiment addict. Hein. Mais j'aurais jamais pensé que ça m'arriverait dans ma vie d'être dépendant de médicaments, quoi. Jamais j'aurais imaginé ça. Mon père l'est, donc je pense que c'est dans les gènes, quoi. Mais ouais, là, ça va mieux. C'est pas encore fini, mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Je me sens mieux, je prends moins de médicaments, je me sens plus en forme, je fais du sport, j'ai mis de l'ordre dans ma vie, et certaines personnes, je les ai écartées. Et puis ouais, je pense que c'est le ménage, hein, à un moment qu'il faut faire. Hein. Tout, ouais. Alors le prochain c'est polémique, beaucoup de risques dans ma musique, mal poli sont mes polémiques, 5 pères qui voient là les flics, ils veulent me faire craquer que c'est comique. Alors je dis beaucoup de risques dans ma musique parce que involontairement je m'attaque souvent à des thèmes qui touchent des institutions parce que c'est mon inspiration, mais je vois que ça prend de grosses proportions. Quand par exemple je parle de béquet, de nec, de maison, si je suis toujours dans une polémique malgré moi, quoi, mal poli sont mes polémiques, c'est parce que je dis toujours les choses un peu sans filtre et parce que je prends des risques, quoi. Je pense que dans ma carrière j'aurais pu avoir des choses. si j'avais fait certains, pas compromis, mais sacrifices, si je m'étais muté. Et je préfère l'ouvrir que saisir des opportunités et être en désaccord avec moi-même, quoi. Après, je dis 5 perquis, voilà les flics. C'est parce que en 2 ans, j'ai eu 5 perquis, donc j'ai mis 5 perquis. Ils veulent me faire craquer que c'est comique. Parce qu'à chaque fois, les histoires que j'ai avec la justice, c'est toujours des histoires. C'est jamais contre une personne, c'est toujours contre des keufs. Donc on sent que c'est y a un petit acharnement pour me pousser à la faute, quoi. Parce que j'ai eu une altercation avec des keufs il y a une année, et dedans il y avait le boss de quelqu'un de haut placé dans la police. On est en procès depuis plusieurs années, et depuis ça, ça a découlé sur plein de problèmes avec la police. Donc on commence à un peu penser à un rapprochement. Un certain acharnement. Des fois, ils viennent chez moi, alors que chez quelqu'un d'autre, ils ont envoyé un courrier ou une convocation. Des fois, je leur dis ça. Je suis assis dans le salon menotté, je dis, mais vous savez qu'à m'appeler. Je suis un artiste, donc je ne fuis pas. Vous savez où je suis tous les week-ends, je pars sur les réseaux. Convoquez-moi et je viendrai, pas la peine d'écraser la porte. Quand t'as un bon avocat qui souvent te sort d'affaires, je pense que ça vexe un peu. On se dit, ah, lui, par contre, il faudrait un moment qui coule, quoi. Ouais, mon avocat, c'est un genre de Black Panther. Il me sort toujours d'affaires. Ouais. Clairement, c'est un abus de pouvoir. Quand je me fais arrêter et que je demande c'est quoi le problème et qu'on me dit ce soir tu vas faire le JT, c'est qu'ils savent à qui ils parlent, par exemple. Ils savent que je suis un artiste. Quand il me dit dans l'oreille ta meuf, dis-lui d'aller sur le trottoir parce que c'est une salope, c'est un keuf qui me dit ça. Donc ils savent la réaction que j'aurai. Je suis bête. Je vais pas le prendre, ouais, j'ai compris, c'est une provoque, je vais chauffer sur le coup. Et ouais, c'est de l'abus de pouvoir, ils savent toujours à qui ils ont affaire. C'est toujours Kalash, c'est jamais Monsieur Valré. C'est quand il m'arrête, c'est alors, le prochain album, c'est pour quand? Donc je pense que c'est ouais, de l'abus de pouvoir. Et puis des fois, on pourrait me lâcher plus tôt, genre en 2 jours, 1 jour, mais ça dure toujours 4-5 jours après on me défaire au dépôt, après on me passe au juge. Donc je trouve que ça fait beaucoup pour si peu, quoi. Je pense que si j'avais fait des vraies conneries pour lesquelles ils viennent me chercher, je serais en prison. Si à chaque fois je sors, c'est qu'il y a une raison. Prochain, c'est À Jamais. C'est un morceau que j'ai écrit pour un pote à moi décédé. Il s'appelle Lesson. Ça dit, on s'était promis de tout niquer avant de s'en aller là-bas. Depuis que t'es parti, homie, j'ai fait le tri autour de moi. Putain, j'ai tellement la haine que tu ne sois plus là. Mon pote Lesson, il est décédé. On a grandi ensemble en Martinique. Quand j'ai quitté chez ma mère, j'habitais à un moment dans un endroit. Il y a une meuf qui m'a accueilli chez elle, une autre meuf. Et c'est là, il squattait tout le temps chez moi. C'était parmi mes 2 meilleurs amis. Il est mort à Paris à moto. Il est tombé. J'ai été reconnaître son corps. Enfermé, accompagner sa mère, fermer son crâne, enfin c'était violent, ça m'a traumatisé. Et je dis on s'était promis de tout niquer avant de s'en aller là-bas, c'est parce qu'il était avec moi au début de ma carrière et qu'on avait déjà ce discours de, par exemple je lui disais je vais faire l'Olympia un jour, je vais faire le Zénith, je vais faire Bercy, et il me disait ouais machin, donc c'est ce qu'on s'était promis ça quoi. Depuis que t'es parti Omi, j'ai fait le tri autour de moi, j'ai la haine que tu ne sois plus là. Ça c'est parce que suite à son décès, en fait il rassemblait beaucoup lui, c'est-à-dire il était doux, gentil, donc il y a plein de gens qui venaient à l'endroit où lui était. Donc on était ensemble et quand il est mort, ça a cassé des trucs de ouf, il y a des gens qui s'en sont voulus, tout le monde s'est un peu éparpillé quoi, ça a tué une vie quoi. Certaines relations se sont soit dégradées ou se sont arrêtées carrément. Mais bien sûr, il y a les potes de la cité, on est restés ensemble, mais ouais, ça a cassé quelque chose. Ouais. Ça m'a mis en colère parce que c'était, tu sais, c'est un accident, quoi. Et puis c'est quelqu'un qui ne méritait pas. Il sortait de soirée, je sais qu'est-ce qui lui est arrivé. J'ai vu son corps, j'ai vu tu vois, des trucs violents. Et puis sa maman l'aimait beaucoup. Elle a laissé sa chambre intacte jusqu'à maintenant, avec ses photos, son lit, son odeur. Donc j'ai trouvé ça violent. Et en plus, quand il est mort, on a appris qu'il allait de père. Sa meuf était enceinte de genre 2 mois. Donc l'enfant est né, et l'enfant, c'est son. C'est son jumeau, quoi. Donc, mais c'est on dirait une réincarnation. Donc, ouais, c'est pour ça que je dis j'ai la haine, parce que c'est jamais mérité, mais lui, vraiment, c'était. Tu te dis, ah, ouais, c'est de la merde, quoi. Il y a plein de potes d'ailleurs autour qui disaient, ouais, pourquoi lui, quoi, pourquoi pas nous. Alors que, tu vois, on avait plus. On dit pas qu'on méritait plus, mais en tout cas, c'est lui qui méritait le moins d'entre nous. Tu vois, voilà. Après ça, on s'est tous promis de mettre notre casque tout le temps, sur les routes, à Paname. Il avait son casque, hein, mais c'était violent, donc le casque a. Assez fracturé. Mais aux Antilles, ouais, quand on voyait un pote arriver, qu'on partait en soirée sans casque, on disait, ouais, quoi, tu respectes pas les sons, en fait. On disait tout le temps ça. Et ouais, c'est quelque chose. Ouais, ça m'a. L'alcool, la moto, là. Et puis, ouais, ça m'a fait bizarre, hein, cette mort-là. Salam. On était trop heureux dans le bendo. Pas de coup de pute, pas de couteau, pas de feu, mais entre poteaux. J'ai ta clé, t'as la clé de ma moto. Loyauté était le mot. Ben, lui, il était dedans, par exemple. Les sons. Mes chops aussi qui est décédé étaient là. Eux qui sont devant la porte, ils étaient là. Quand je dis on était trop heureux dans le bendo, c'est-à-dire que c'est. Je sais pas si les gens ont capté, mais c'est un peu paradoxal de dire qu'on est heureux dans un bendo. Un bendo, c'est.
c'est dégueulasse. Mais nous, c'était comme si, quand moi, j'étais encore plus jeune, hein, c'est comme si tu joues au grand, quoi. T'as les clés de Bendo, tu peux admettre des meufs, tu peux admettre des kilos, il y a du son tout le temps, il y a des motos garées, il y a des chiens, tu vois, c'est vraiment, on était contents, quoi. On était comme une bande de... C'est comme, tu vois, DMX, là, comme avant, avec ses potes, comme Snoop, tout ça. On était comme une bande de outlaw dans un bendo. Et il appartenait à un mec beaucoup plus grand que nous, que je prenais en modèle. Il avait une grosse moto, des gros bijoux. Donc, je disais, ouais, il me mettait sous son aile, tout ça. Il me passait son flingue contre ta moto. Donc, je disais, ouais, ça, il est heureux, tout ça. Tu as des conneries comme ça. Et heureusement, Dieu merci, je m'en suis jamais servi de son flingue. Et pas de coup de pute, pas de couteau, c'est-à-dire, il y a beaucoup de quartiers où il y a eu beaucoup de trahison entre les mecs, mais nous, on avait vraiment ce côté loyal, ou pas de feu, mais entre poteaux. C'était con, mais par exemple, si un mec, il sort avec une meuf depuis 6 ans, je sais pas, on s'entend super bien avec elle, le jour où il se sépare d'elle, on l'oublie, c'est-à-dire, si on peut la croiser là, on va pas lui faire la bise. C'était une règle qu'on avait avant. Il y a déjà eu, des embrouilles comme ça, par exemple. Ouais, j'ai croisé ton ex. Et tu lui as dit bonjour? Ouais, parce que je la... Comment ça, tu vois? C'était un truc genre, les potes, c'est les potes. Une ex, ça devient un fantôme. C'est pour ça que je dis pas de feu, mais entre poteaux. Y a pas de quiproquo, je touche pas ta meuf, je touche pas la mienne. C'est pas comme maintenant, on va à la mer, les meufs, elles vont à la mer en maillot string. Avant, y avait pas ça. On sort avec les potes, tu vas mettre un maillot décent. Maintenant, c'est vas-y, mets ton string. Les choses ont changé, quoi. Oh, on était cons aussi. Hein. Alors, on passe au morceau Empire. Alors, j'ai mis le game à mes pieds. Mon inspiration revient comme c'est go. Bien trop antillais, les radios m'ont mis sur le techo. Quand je dis j'ai mis le game à mes pieds, c'est game musical aux Antilles. C'est-à-dire au moment où j'écris ce son, je suis numéro 1 dans toutes les Antilles. Bien trop antillais, les radios m'ont mis sur le techo. Ben ouais, c'est l'amalgame. Je trouve ça bizarre d'être chef d'un game. Et que comme je suis antillais, je passe pas en radio, sous les gros médias français, alors que j'ai le plus gros hit du moment qui était moi Camon. Je passais sur le strict minimum. Mais normalement, un morceau avec un succès comme ça, j'aurais dû avoir tous les médias de France et les télés, quoi. Mais ça, c'est lié soit au fait que ce soit un morceau rap, mais ça, je suis pas sûr, parce qu'au même moment, il y avait d'autres morceaux rap qui passaient partout. Mais ouais, en tant qu'antillais, ouais, je sens, même si je fais des morceaux en français, que c'est plus compliqué à rentrer sur les médias en playlist, tout simplement. Et on m'a pas dit officiellement cette raison-là, mais je l'ai compris, parce que des fois, je sors des morceaux en même temps que d'autres artistes, je fais des meilleurs chiffres, et eux, ils rentrent en playlist. C'est pas que leur morceau soit moins bien ou meilleur, hein. C'est juste que je trouve qu'il y a déjà des choses qui sont choisies, quoi. Alors, Ghetto Life, c'est un son sur le nouvel album Diamond Rock. Quand un nègre souhaite ouvrir un business, il doit se battre trois fois plus qu'un autre. Notre mentalité est un réel problème, notre histoire est tellement récente qu'on ne réalise pas. Mais ça, je dis ça c'est des choses vécues. C'est quand un nègre, je dis le mot nègre exprès, quand un nègre souhaite ouvrir un business, il doit se battre trois fois plus qu'un autre. C'est-à-dire, en France, je pense que c'est le cas, mais aux Antilles aussi, quand un jeune veut ouvrir, il veut ouvrir une boulangerie, c'est tout un débat. C'est beaucoup moins facile et... On demande beaucoup plus de preuves ou de paperasse ou, tu sais, on ralentit, le truc est ralenti, quoi. C'est pas, ils sont pas aidés. Et je dis, notre mentalité est un réel problème, notre histoire est tellement récente qu'on ne réalise pas. C'est parce que je pense qu'on réalise pas que l'époque de l'esclavage, elle est archi récente, historiquement. Ça remonte pas si longtemps que ça, c'est-à-dire 3 générations, je pense, 3-4, pas dire de bêtises. Et qu'on réalise pas qu'on fonctionne encore sous des codes, à cause de codes qui ont été posés, ou qu'on reste dans ce même cercle-là de noir contre noir, de hiérarchie, de noir clair de peau, noir de ma couleur, noir foncé, noir nuit, tu vois, cette cheveux bouclés, cheveux grenins. Et enfin, j'ai un morceau qui s'appelle Willie Lynch et c'est en rapport à ça, où je dis qu'il a appris aux esclavagistes à comment maîtriser un groupe d'esclaves en donnant à celui-là un peu plus de pouvoir que l'autre. Et ça va maintenir un truc entre eux qui fera que celui-là sera supérieur à celui-là. Donc, on va se manger entre nous, quoi. Donc c'est pour ça que je dis notre mentalité est un problème, c'est qu'on n'arrive pas à pousser l'autre vers l'avant ou simplement à respecter ce qu'il est en train de construire. Et on a toujours cette tendance à attendre quelque chose de lui alors qu'il est en train de se battre pour son pain et on veut lui retirer un bout de son pain pour... Je trouve que c'est dommage, quoi. Mais je me mets dedans, hein. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est ancré en nous et qui n'est pas encore... qu'on n'a pas encore travaillé parce qu'on réalise pas que c'est quelque chose qui a été justement instauré et que c'est volontaire. C'est des codes qui sont bien ancrés et que je pense qu'avec les générations, ça peut se nettoyer, quoi, mais on est encore en plein dedans, quoi.